bonsoir et bienvenue à cette 656e conférence de l'Université de tous les savoirs. Bonsoir à ceux qui nous retrouvent en direct sur Internet, que ce soit sur le site de l'Université de tous les savoirs ou sur le site du Monde. Je vous demande de penser, si vous voulez bien, à éteindre les téléphones portables pour qu'ils ne nous dérangent pas pendant la conférence. Alors ce soir, c'est une conférence à double que nous avons. Ce ne sera pas le double de temps, rassurez-vous ou regrettons-le. Nous recevons Rehana Ebrahim Vali, qui est professeur d'anthropologie à l'Université de Pretoria, en Afrique du Sud, et Éloi Fiquet, qui est anthropologue et historien, maître de conférence au Centre d'études africaines à l'École des hautes études en sciences sociales. Ils vont nous parler, dans cette série Islam d'aujourd'hui, des Islams africains. Bon, cette conférence, elle est presque, pas tout à fait l'avant-dernière, l'antépénultième, comme on dit, des 13 conférences que nous consacrons au thème d'Islam aujourd'hui, en partenariat avec l'Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman. Et comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, mais très volontiers, je remercie encore Jean-Philippe Bras et Hamid Bozarslan qui ont assumé cette programmation. Les prochaines conférences auront lieu en janvier, du 9 au 17 janvier. Nos conférences sont disponibles sur Internet. Je vous renvoie à la documentation qui est donnée à l'entrée. Elles sont disponibles à la radio sur France Culture entre 6h et 7h du matin dans l'émission L'Éloge du Savoir. La série sur les islams sera diffusée à partir de janvier 2008. Et puis, les textes ont été en partie publiés aux éditions d'Ile Jacob. Et désormais, ils sont en accès en ligne sur notre site Internet. Donc, je vais présenter maintenant rapidement nos deux intervenants de ce soir. Éloi Fiquet va commencer pour une trentaine de minutes. Il est anthropologue et historien. Il est né en 1973, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, où il enseigne l'histoire et l'anthropologie comparée de la Corne de l'Afrique. Ses recherches ont principalement porté sur les interactions et les formes de mixité entre les sociétés chrétiennes et musulmanes des hautes terres d'Éthiopie centrale. Il travaille sur les réseaux de l'islam éthiopien, mais aussi sur les constructions des contours identitaires en Éthiopie contemporaine. Il a publié un dictionnaire français amharique, donc c'est fort spécialisé, et il est particulièrement chargé aussi des relations internationales de l'École des hautes études en sciences sociales, en développant des partenariats avec notamment des établissements d'enseignement supérieur et de recherche en Afrique. Madame Rehana Ebrahim Vali, elle est professeure d'anthropologie à l'Université de Pretoria en Afrique du Sud. Elle est née en 1956. Elle a vécu en France de 1986 à 1995. Elle s'est principalement formée à Paris 1, où elle a obtenu un doctorat en sciences politiques. Alors, à partir de 1996, à son retour en Afrique du Sud, elle a été attachée au département d'anthropologie sociale de l'université de Witwatersrand à Johannesburg. Et depuis 2007, elle est chercheuse à l'université de Pretoria, où elle enseigne l'anthropologie. Elle travaille sur les questions d'identité dans l'Afrique du Sud post-apartheid, et en particulier sur les expressions identitaires des musulmans d'origine indienne. Elle a publié un ouvrage en anglais, Kalapani, Caste and Color in South Africa, et bien sûr des articles spécialisés dans des journaux savants. Donc je leur donne la parole chacun leur tour. Ce c'est Monsieur Fiquet qui va commencer pour une trentaine de minutes, pas plus, de manière à ce qu'il reste du temps pour les questions sur ces islams africains. Donc Monsieur Fiquet, je vous passe la parole. Merci.
Je vous remercie. Donc dans la première partie de cette conférence, qui est en duo, sous forme d'un duo, j'exposerai dans les grandes lignes les dynamiques anciennes et présentes de l'islam en Afrique. Je pourrais dire aussi l'islam africain ou les islams africains au pluriel, pour tenter de dessiner un cadre suffisamment flexible pour contenir deux entités, deux termes, l'islam et l'Afrique, dont les dimensions sont immenses et les contours flous, à tel point qu'ils débordent toutes les tentatives de les réduire à des catégories simples. Je commencerai par m'arrêter un instant sur ces trois expressions. Islam en Afrique, islam africain, islam africain. L'expression islam en Afrique indique une localisation faisant entendre que les acteurs de l'islam sont extérieurs à ce continent, qu'ils ont porté, implanté, vécu cette religion en venant d'en dehors. Cette extériorité est historiquement vraie. Cette religion venant d'Arabie. De plus, nombreux sont les musulmans, en Afrique comme ailleurs, qui continuent à revendiquer leurs attaches généalogiques à des lignages arabes et valorisent l'usage de la langue arabe comme langue de savoir et de prestige. Les musulmans formeraient ainsi une sorte de diaspora, une communauté aux attaches territoriales multiples, unies par le respect d'une même foi et par la reconnaissance d'ascendance commune. Mais il faut aussi pouvoir rendre compte des formes particulières de vie religieuse et sociale de générations de musulmans nés en Afrique, formés à l'islam chez eux en Afrique, pensant et vivant l'islam dans leurs langues africaines, participant à des systèmes économiques et politiques qui leur font plus ou moins de place. Je donnerai un exemple pour mieux faire comprendre l'enjeu derrière ce problème. En Éthiopie, au printemps 1974, les musulmans, qui défilaient dans les rues aux côtés de leurs concitoyens chrétiens contre l'empire finissant d'Haïlé Sélassié, vous voyez une photo de ces manifestations avec des manifestants musulmans portant une pancarte écrite en caractère et en langue arabe et des pancartes écrites en caractère et en langue éthiopienne. Ces musulmans participant à ces manifestations avaient comme principale revendication de modifier leur dénomination officielle, qui était musulmans en Éthiopie, à laquelle était attaché un statut d'étranger permanent, leur interdisant notamment l'accès à la propriété foncière. Ils réclamaient d'être appelés dorénavant Éthiopiens musulmans, pour que soit reconnue leur appartenance pleine et entière à la nation. L'expression « islam africain », à laquelle correspondent d'autres comme « islam d'Afrique » ou « Afrique musulmane », semblait une réponse à ce problème. Mais elle en pose un d'ordre inverse, celui d'une spécification de l'islam qui ne serait plus compris dans son unicité dogmatique et dans son universalité, mais envisagé selon la diversité de ses expressions géographiques et culturelles. Il existerait donc une forme particulière de l'islam, modelée, configurée en fonction de son histoire longue, de son adaptation en Afrique, sur le terreau culturel et religieux africain. Mais cette spécification régionale de l'islam n'engloberait pas toute l'Afrique continentale. L'Afrique du Nord étant en large partie de langue et de culture arabe, ne pouvant être confondue avec l'islam pratiqué par des non-arabes. D'autres expressions sont alors employées, comme l'islam au sud du Sahara. Donc, je montre ici des couvertures d'une fameuse revue qui a étudié la diversité des pratiques religieuses de l'islam au sud du Sahara, ou bien aussi une expression un peu plus désuète, mais qui a structuré l'étude de ce domaine, islam noir, qualifiant la religion par la couleur dominante de la peau de ceux qui la pratiquent, comme si l'on qualifiait de catholicisme roux l'Église irlandaise. Cette désignation par la couleur noire de tous les phénomènes relatifs à l'Afrique procède d'une réduction raciale qui remonte à la plus haute antiquité. Instruits par les Grecs, les géographes arabes anciens ont forgé l'expression « Bilad al-Soudan », le pays des Noirs, pour désigner les territoires subsahariens. Mais l'idée d'un islam spécifiquement noir est venue des observateurs européens de l'Afrique, faisant ressortir les différences qu'ils observaient entre les pratiques des musulmans africains et celles des musulmans du pourtour méditerranéen qu'ils connaissaient mieux. C'est ainsi que l'islam pratiqué en Afrique a commencé à être portraituré comme un islam noirci, un islam dénaturé, notamment par l'incorporation de nombreux traits de culte animiste. Ce dernier fait est indéniable. Les musulmans, au cours de la longue histoire de leur pénétration, de leur influence, de l'exercice de leur foi en Afrique, ont effacé au nom de l'islam de nombreuses croyances et pratiques considérées comme idolâtres. Mais ils en ont aussi conservé des traces dans leurs pratiques religieuses, mais aussi des traces dans leur environnement, dans leurs pratiques culturelles et sociales, comme par exemple les cultes de possession par des esprits invisibles qui relèvent moins de pratiques religieuses que d'une forme de thérapeutique sociale. Dans d'autres cas, les relations avec les représentants de religions, de cultes traditionnels, qualifiés de païens ou d'animistes, ont pu être institutionnalisées et certains des représentants de ces cultes ont pu même obtenir le statut de dhimmi, statut de, qui servait à qualifier les gens du livre, protégés par l'islam. Et ce concept de dhimmi a pu être appliqué dans certains cas à des représentants de religions traditionnelles africaines. Donc, d'une façon générale, existerait-il une forme particulière d'appropriation de l'islam par l'Afrique, voire une forme de syncrétisme islamo-africain où l'islam se serait adapté à une sorte de culture religieuse africaine préexistante? Je ne le crois pas et ceux qui étudient ces questions de façon générale ne le croient pas. D'une part, ce phénomène d'adaptation, de confrontation, d'incorporation de traits de religion traditionnelle n'est pas propre à l'Afrique. C'est largement partagé par les musulmans qualifiés de la périphérie, de l'islam hors d'Arabie. Et je pense que lors des autres conférences qui ont eu lieu ici, ce point a pu être mentionné. D'autre part, on peut contester l'idée qu'il y aurait une sorte d'Afrique originelle, substantielle, préexistante, uniforme et identique à travers tous les continents et qui constituerait un terreau d'influence à partir duquel l'islam aurait trouvé des adaptations particulières. Enfin, pour terminer ce panorama général, l'expression « islams africains » au pluriel, qui a été conservée par souci de concision comme titre de cette conférence, indique la pluralité des sociétés africaines qui pratiquent l'islam et la diversité des pratiques et des conceptions de l'islam en leur sein. Mais l'expression n'est pas non plus satisfaisante, car elle suppose l'existence de plusieurs islams. Or, par principe, l'islam est un. Et ces quelques variations dogmatiques, notamment entre la sunna et la shia, sont très structurées et on ne peut pas démultiplier l'islam en une série de variations locales en fonction de ses implantations. Donc, ce n'est pas à des islams auxquels nous sommes confrontés quand nous observons les sociétés musulmanes africaines, mais à plusieurs façons de pratiquer l'islam, de le vivre socialement. Et à la suite de plusieurs auteurs qui ont travaillé sur cette question, il est préférable de signifier cette diversité par une périphrase comme « cultures musulmanes africaines » ou bien « les Afriques musulmanes ». La principale idée que j'essaie de développer ici, dans le temps bref qui m'est imparti, est que l'islam n'a pas eu à s'adapter à l'Afrique. L'Afrique dont nous avons cette conception globale, unifiante en tant que continent. Là, vous voyez une carte de l'Afrique, généralement, quand on parle d'Afrique, tout de suite, il nous vient à l'esprit cette forme iconique, continentale, massive de l'Afrique, continent noir, dans son unicité intemporelle. Donc, l'islam n'a pas eu à s'adapter à cette Afrique conçue comme une réalité humaine intangible dans un cadre continental ou semi-continental au sud du Sahara donné par la nature. C'est au contraire à travers l'islam que les contours de l'Afrique ont commencé à être dessinés et construits, à être perçus comme formant un ensemble territorial contigu et à être insérés dans les cadres de connaissances et de partage du monde. Je montre ici une carte élaborée par le géographe arabe Al-Idrissi au XIIe siècle. Alors, cette carte, il vous sera plus simple de la voir dans l'autre sens, c'est-à-dire ce que je vous montrais précédemment, le sud était en haut et le nord en bas. Donc là, vous voyez en haut des traits de l'Europe. Le curseur ici, donc on a l'Arabie au centre, l'Asie, l'Europe, on voit la péninsule ibérique. Et ici, excusez-moi, je reviens en arrière, ce demi-cercle, cette forme de lame de poignard, c'est l'Afrique qui est figurée, avec ici l'océan Indien et un archipel d'îles, y compris Madagascar, et toute une série de localités du sud, de la pointe sud de l'Afrique, en remontant jusqu'à la mer Rouge, l'Égypte, les monts de l'Atlas, et le Nil et le fleuve Niger sont figurés. C'est à travers l'islam, à travers les réseaux d'interconnaissance, les réseaux de sociabilité, les réseaux d'échanges commerciaux, idéologiques introduits par l'islam sur ces terres, qu'ont pu commencer à être dessinés les contours de ce monde mal connu. Quand l'islam, dès les premiers temps de son expansion, franchit la mer Rouge pour conquérir d'autres terres et porter ses préceptes hors de l'Arabie, ce n'est pas l'Afrique en tant que vaste entité s'affirmant comme vierge de toute influence qu'il rencontre. Depuis les rivages de l'océan Indien jusqu'à ceux de l'Atlantique, en passant par la vallée du Nil, ce sont des entités politiques régionales puissantes communiquant depuis plusieurs siècles avec le monde gréco-romain et où le christianisme a des implantations fortes. Riches de leurs ressources hydrauliques et agricoles, ces sociétés sont séparées par des bandes de désert contrôlées par des groupes nomades vivant du commerce interstitiel. Et l'islam, s'implantant, conquérant ces sociétés, construira entre elles de nouvelles dynamiques, de nouveaux liens. Nous allons voir maintenant à grandes enjambées, en prenant des bottes de sept lieues, l'histoire de ces premières implantations africaines de l'islam. Et je ne retracerai ici que de grands mouvements. Il est impossible de décrire précisément la somme de stratégies, de conflits, d'alliances, de résistances, de postures idéologiques, de variantes locales dans leurs détails. Tout cela a fait l'objet d'études détaillées, de monuments d'érudition. Et même si ces ouvrages sont nombreux, il faut signaler que de nombreuses zones de lacunes, de manuscrits qui restent à découvrir, de ruines à exhumer, ce nombre d'espaces de connaissances à conquérir est encore grand. La première propagation de l'islam hors d'Arabie eut lieu avant la fin de la prédication de Mohammed, Mahomet. Et ceci est relaté dans un épisode célèbre des traditions historiques fondatrices de l'islam, les hadiths. Dans la cinquième année de sa prédication, en 615, face aux persécutions des autorités de la Mecque, le prophète aurait conseillé à ses premiers fidèles d'émigrer de l'autre côté de la mer Rouge, en Abyssinie, car il y règne un roi sur le territoire duquel personne n'est opprimé. Le Najashi, déformation de l'éthiopien Negassi qui signifie roi, les accueille favorablement. Interrogé par le roi chrétien et ses prêtres sur les raisons de leur exil, leur représentant, cousin du prophète, expose les fondements monothéistes de l'islam, puis récite un passage de la sourate 19 consacrée à Marie et aux prophètes de l'Ancien Testament, jusqu'à faire fondre son auditoire en larmes. Les émigrés resteront 13 ans sous la protection du souverain éthiopien. Certains abandonnent même l'islam pour devenir chrétiens. Mais ces premiers cas d'apostasie sont éclipsés par la question de la conversion du roi lui-même. Plusieurs traditions rapportent que ce roi chrétien se serait converti secrètement à l'islam par un habile stratagème consistant à jurer sur son cœur de sa foi en Jésus-Christ, tout en ayant auparavant caché sous son vêtement une profession de foi à l'islam. Il est difficile, voire impossible, de démêler la part de vérité historique de cet épisode. Mais il traduit, d'une part, l'influence ancienne du royaume chrétien d'Aksoum sur l'Arabie ancienne au temps de Mahomet. Dans l'entourage du prophète, il y avait de nombreux Éthiopiens, et le plus connu d'entre eux est Bilal. Bilal, esclave affranchi, qui trouva refuge auprès du prophète et qui, par sa voix pure, devient le premier muezzin, celui qui fait l'appel à la prière. D'autre part, cet épisode des traditions musulmanes qui montre une première forme de propagation, de sortie de l'islam hors d'Arabie, montre que cette relation de l'islam à l'altérité, au monde non arabe, ne se fait pas seulement par la conquête violente, mais par la persuasion et par le partage et la rénovation du dogme de l'unicité absolue de Dieu, et un argument qui aura un impact certain sur les sociétés chrétiennes byzantines qui étaient implantées en Afrique à l'époque. Donc, ensuite, l'islam, après la mort du prophète, commence son expansion hors d'Arabie, d'abord par la conquête militaire de la Syrie, de la Chaldée, de la Syrie, de la Mésopotamie, donc partagée entre l'Empire byzantin et l'Empire sassanide perse. Et après avoir conquis la Syrie dans les années 630, les armées musulmanes se dirigent vers l'Égypte. Et c'est une vraie promenade pour les armées musulmanes. Elles ne rencontrent que très peu de résistance. En effet, la société égyptienne à l'époque était très profondément divisée entre deux groupes. D'une part, les gouvernants, des Grecs de Byzance, revêtus d'emplois et de fonctions militaires administratives, des colons insolents, appartenant presque tous à la religion orthodoxe grecque. Les autres, les gouvernés, les descendants des anciens maîtres du sol, les Coptes ou Égyptiens, peuple d'agriculteurs et d'artisans vivant sur les rivages du Nil. Et ces Coptes avaient embrassé une doctrine chrétienne qualifiée d'hérétique par le clergé byzantin, la doctrine monophysite, déclarant l'unicité de la personne de Dieu et non pas sa dualité entre sa personne spirituelle et sa personne humaine. Et ce mouvement monophysite avait pénétré le monde copte tout au long du 5e et 6e siècle. Et donc les divergences, les haines communautaires étaient profondes en Égypte. Et quand les armées arabes y pénètrent, elles sont accueillies comme libératrices par les Coptes, qui vont passer un pacte de protection avec elles. Donc, sous condition d'une soumission complète aux armées arabes, les Coptes reçoivent en échange protection et des garanties d'une justice exacte et impartiale. Les Grecs byzantins tentent de résister à cette pénétration musulmane et à cette association avec les Coptes. Ils se réfugient à Alexandrie et vont tenir le siège d'Alexandrie pendant plus d'une année, pendant 14 mois, et finiront par céder face aux forces musulmanes déployées autour d'Alexandrie et iront se réfugier à Constantinople. À partir de là, l'Égypte s'islamisera progressivement avec des politiques plus ou moins forcées d'arabisation et de déclin progressif de la culture et du christianisme copte. On pense qu'au XVe siècle, environ les Coptes constituaient le niveau de minorité qu'ils constituent actuellement, 10 à 15% de la société égyptienne. Un mot de des royaumes chrétiens de Nubie, dans le Soudan actuel, qui résisteront à la poussée de l'islamisation, venant à la fois de l'Égypte, mais aussi des nomades vivant sur les rives de la mer Rouge, les nomades Béja, et c'est entre le XIIe et le XIVe siècle que les uns après les autres, ces royaumes chrétiens de Nubie, se soumettront à l'islam et s'arabiseront progressivement. Ensuite, à partir de l'Égypte, les armées arabes commenceront par conquérir l'Afrique du Nord. Et d'abord, la région, elle aussi sous contrôle byzantin, d'Ifriqiya, qui donnera son nom à l'Afrique actuelle, donc dans la Tunisie d'aujourd'hui. Et c'est en l'année 670 qu'une première expédition victorieuse permet la fondation de Kairouan, qui est la première implantation de l'islam en Occident et qui va servir de tête de pont à la conquête et l'implantation de l'islam au Maghreb, puis à partir du Maghreb vers l'Andalousie. Alors là, dans ce contexte, il y aura des résistances. Les sociétés berbères locales s'opposeront pendant près d'un siècle aux différentes incursions, tentatives d'implantation, d'organisation d'un État musulman. Et de leur côté, les États-majors arabes et musulmans considéreront leur implantation dans ce territoire comme très difficile. Cette région sera qualifiée de perfide. Et ils se contenteront d'exploiter ce territoire, de prélever le butin, mais sans y établir au commencement vraiment un pouvoir fixe. Et c'est progressivement, au cours du 7e ou 8e siècle, que des formes d'État musulman s'établiront dans le Maghreb, et notamment en lien avec l'Andalousie. Et l'une des plaques tournantes de ce lien entre le Maghreb et l'Andalousie sera la ville de Fès, au Maroc, aujourd'hui. À partir de l'Afrique du Nord, ah oui, non, là je suivais un autre itinéraire, donc je reprendrai ensuite l'Afrique de l'Ouest. Donc, aussi vers le 8e, 9e siècle, l'islam, non pas dans un mouvement de conquête militaire, comme c'était le cas de l'Égypte puis du Maghreb, mais dans le cadre d'une sorte de mouvement d'implantation commerciale, s'implantera sur les côtes de la mer Rouge. À partir des côtes de la mer Rouge, trouva des implantations à l'intérieur de l'Éthiopie actuelle, puis prendra les routes commerciales conduisant vers l'Inde et le système des vents de mousson de l'océan Indien pour circuler sur les côtes orientales de l'Afrique, le monde somali et Swahili signifiant en arabe monde côtier, et à partir de ce monde Swahili, des échanges très intensifs auront lieu entre cette façade côtière africaine de l'océan Indien et d'une part le Yémen, le golfe Persique et l'Inde. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, c'est à partir du Xe, XIe siècle que les groupes berbères islamisés, contrôlant les trafics sur les routes sahariennes, commenceront à s'implanter de l'autre côté du Sahara, sur les rivages du Sahara, rivage Sahel en arabe, et à partir notamment du pouvoir des Almoravides berbères qui gouvernent la région au XIe siècle, des foyers d'implantation musulmane s'implanteront donc à l'ouest, dans la région du Sénégal, du fleuve Sénégal, l'État dit du Tekrour. Ensuite, à partir de cet État du Tekrour, l'islam s'implantera dans ce qui était anciennement le royaume ou l'empire du Ghana, formant les fondements d'un royaume où les communautés musulmanes auront une place importante, le royaume du Mali, avec notamment les places de Tombouctou et de Gao, qui seront des lieux importants de rayonnement de l'islam à travers l'Afrique. Et c'est aussi, au Xe, XIe siècle, le royaume musulman de Kanem qui sera établi. Et donc, sur le Sahel, toute une série d'implantations, de sociétés politiques musulmanes de plus ou moins grande importance s'établiront et assureront des relations transversales entre ces sociétés, communiquant les unes avec les autres, depuis l'est de l'Afrique jusque l'est, et notamment à travers les routes du pèlerinage à la Mecque, si bien que des routes de migration, d'échange, de circulation partiront depuis l'Afrique de l'Ouest, traverseront les régions du Tchad, le Darfour, le Soudan actuel, l'Éthiopie jusqu'à la mer Rouge. Mon temps est déjà presque consommé. Vous voyez qu'il y a là une histoire vaste, de longue durée, faite de contacts, d'échanges, de structuration de routes, où le commerce a eu son importance, ce commerce étant lui aussi porté par des structures idéologiques fortement influencées, dont l'influence sera grandissante, notamment à partir du XVIIIe, XIXe siècle, de la pensée confrérique, donc du mysticisme musulman, qui se réorganisera pour former une sorte de doctrine commune à ces diverses implantations de l'islam en Afrique. L'une de ces implantations confrérique, fortement articulée à des réseaux commerciaux internationaux, et la confrérie Mouride, établie au Sénégal, fondée au début du XXe siècle, dans le contexte de désorganisation de la société indigène par l'ordre colonial, et le cher Amadou Bamba, porteur d'un projet de réforme sociale en revenant au texte du Coran et en revenant aussi à des penseurs très influents de la pensée musulmane comme Al-Ghazali, fondera un mouvement dont le succès et l'ampleur n'a cessé de croître au sein du Sénégal où les adeptes sont nombreux et permettant de structurer aussi les migrations sénégalaises et africaines dans le monde. Je conclurai mon propos juste par ces quelques cartes vous donnant une vue de la répartition des différents grands groupes religieux en Afrique aujourd'hui, donc des religions dites traditionnelles, encore faiblement présentes sur toute une ceinture d'Afrique centrale et encore relativement présente en Afrique orientale et australe, donc l'islam fortement implanté en Afrique du Nord et sahélienne, avec des implantations actives en Afrique dite forestière. Et aussi, il faut mentionner, et ce sera l'exposé de Rehana Valli, des implantations minoritaires, notamment urbaines, très actives et particulièrement actives pour connecter l'Afrique avec le reste du monde. Et c'est sur ces mots que je donne la parole à l'autre conférencière. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Bonsoir. Et je voudrais d'abord commencer pour remercier Yves Michaud et pour m'avoir invité d'Afrique du Sud. C'est un dur exemple à suivre, Eloi. J'ai un peu le trac. Ce n'est pas souvent que j'ai l'occasion de parler en français en Afrique du Sud. Alors, je vais vous demander de me pardonner mes fautes de français. Et je suis sûre que s'il y a des problèmes, on peut en discuter pendant qu'on pose des questions. Je vais parler d'une politique de marginalisation en Afrique du Sud. Et je vais prendre l'islam comme exemple, l'implantation de l'islam comme exemple. Mais tout d'abord, je vais commencer à vous raconter une petite histoire. Et d'après cette histoire, je vais quand même tirer des grandes lignes de ce que veut dire être musulman en Afrique du Sud. Il y a quelque chose qui m'est arrivé l'année dernière. J'allais à Johannesburg en voiture. J'avais oublié de poser ma vignette sur le pare-brise. Malheureusement, ce jour-là, j'étais arrêtée par un traffic cop, un agent. Il a arrêté tout le monde et je faisais partie. Et je savais que j'avais tort. Et je lui demandais qu'une seule chose, qu'il ne me donne pas une amende, si possible. Mais s'il va me le donner, qu'il me donne un petit rabais. Parce que je suis prof à l'université, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Et j'avais un autre sticker sur mon pare-brise qui indiquait bien que j'étais à cette époque-là à l'université de Witwatersrand. Alors on commençait à discuter. Il voulait savoir que faisaient les anthropologues. Alors je lui expliquais en grande ligne ce que faisaient les anthropologues. On travaille avec la religion, etc. Il était intéressé, il commençait à me poser des questions. Et une des questions, c'était qu'il avait un problème un jour. Comme il m'avait arrêté, il avait arrêté un autre conducteur dans une voiture, une femme musulmane, mais qui était voilée. Il ne pouvait pas voir son visage. Il lui avait demandé son permis de conduire et lui avait montré. Mais il a fallu quand même mettre un visage, comparer ce visage qui est sur son permis de conduire avec la conductrice. Elle ne voulait pas, parce que sa religion lui interdisait de montrer son visage à un homme étranger. Et M. Mossala, qui était très politically correct et qui ne voulait pas être insensible à sa culture et sa religion, l'a laissé aller. Et ma question était, qu'il m'avait posée, c'est « Que fait dans un cas comme ça ?» Je lui avais répondu que si on est d'accord pour conduire une voiture dans une place publique, sur la route, et on a déjà un permis de conduire, alors il n'y a pas de problème, parce qu'il a déjà vu son visage, théoriquement, et qu'elle doit, dans ce cas-là, respecter le règlement de la route en Afrique du Sud. Si on accepte de conduire, il faut le faire. Comme ça, bon, je vais passer en vous disant que je n'ai pas eu de prune. Je suis partie, il avait pris mon numéro de téléphone. Et voilà que quelques semaines après, je reçois un coup de fil sur mon mobile. C'est M. Mossala. Voilà, confronté au même problème. Il avait arrêté une bonne femme musulmane voilée qui ne voulait pas lui montrer son visage. Il avait tout essayé, il avait dit ce que j'avais lui avait dit, que quand on accepte de conduire une voiture sur les routes sud-africaines, on accepte la loi. Elle ne voulait pas. Alors il lui avait passé le téléphone. C'était à moi de parler, mais moi j'étais confrontée à une chose. Il fallait d'abord lui dire, je m'appelle Rihanna, faire salam, que je peux lui donner des idées que je suis d'origine musulmane, n'est-ce pas? Et enfin, elle lui avait montré son visage. Elle était obligée, elle n'avait pas d'argument. Ça s'est passé en 2006. Ça ne pouvait pas passer pendant la période coloniale ni pendant la période d'apartheid. Ce que je veux dire par cet exemple, c'est qu'aujourd'hui en Afrique du Sud, on a ce qu'on appelle le respect et l'égalité. Chaque être en Afrique du Sud, chaque Sud-Africain est devenu un être humain à l'égalité. Et M. Mossala, bien évidemment, a respecté le droit de cette bonne femme musulmane de porter le foulard ou le voile ou le hijab et le niqab aussi. Et c'est ça qu'on a aujourd'hui en Afrique du Sud. On a le droit de porter les signes religieux sur la place publique et on va le respecter. Ceci n'était pas le cas quand les premiers musulmans sont arrivés en Afrique du Sud. Eloi Fiké, vous avez parlé de la façon dont les musulmans sont arrivés en Afrique. Ils étaient plutôt des Arabes, je pense. Les premiers colons en Afrique du Sud sont arrivés en 1652. Quelques années après, en 1654, et même à partir de ces dates-là, les premiers musulmans sont arrivés. Ils étaient amenés par la compagnie orientale Dutch East India Company. Aide-moi. La compagnie des Indes orientales hollandais. Voilà. Je vais y arriver. Qui ont amené ces musulmans? C'était d'abord des exilés et aussi des prisonniers politiques, si on veut, qui ont été amenés en Afrique du Sud. Ils ont amené leur islam avec eux. Il y avait quand même des problèmes à cette époque-là, c'est-à-dire que ces premiers musulmans qui sont arrivés n'avaient pas le droit de pratiquer l'islam. Il y avait d'ailleurs un décret qui a été passé et qui ont interdit la pratique d'islam au Cap dans les lieux publics. Ce qui, bien évidemment, qui a forcé ces musulmans de pratiquer leur religion en privé. Okay. C'est ça qui est arrivé. Alors, mais ces musulmans qui sont arrivés, ceux qui sont arrivés en tant qu'esclaves, étaient amenés pour protéger justement la compagnie des Indes orientales contre les Khoisan. Les prisonniers politiques qui ont été amenés de la Malaisie ou de l'Indonésie étaient des prisonniers politiques et en tant que prisonniers politiques, ils étaient déjà instruits, ce qui fait qu'il y avait un moyen de propager l'islam au Cap, ou pratiquer l'islam au Cap plutôt. Mais ils restaient les minorités. Ce qui fait que les premiers musulmans étaient obligés de pratiquer leur religion plutôt en secret. Ça a changé en 1795. Je vais tirer des grandes lignes. En 1795, quand les premiers Anglais sont arrivés et qui ont occupé le Cap. Alors là, ils ont quand même toléré les pratiques religieuses des autres. La deuxième vague des musulmans arrive en Afrique du Sud presque un siècle après, dans la Provence, ou plutôt la colonie de Natal, où ils avaient besoin d'une main-d'œuvre bon marché pour les plantations en sucre. C'est là que les Indiens sont arrivés. Les premiers qui sont arrivés étaient ceux qui ont travaillé qui étaient des indentured laborers. Ils travaillaient sous contrat. Ils étaient obligés de pratiquer leur islam ou leur religion, et c'était la même chose pour les hindous aussi, sur des plantations de sucre. Et c'était à eux de se organiser entre eux pour se assurer qu'ils auront le droit de rester musulmans. Ils n'avaient pas de problème à cette époque-là, par l'État, ni par les colons. Ils étaient rejoints par les Indiens libres, c'est-à-dire ceux qui sont venus en Afrique du Sud chercher fortune ou faire commerce. C'est parmi eux qu'on a trouvé la plupart des musulmans qui sont venus de l'Inde. Et quand je parle de politique de la marginalisation, par là je veux dire que les premiers musulmans qui n'avaient pas droit de pratiquer leur islam étaient justement devenus des concurrents. Et par là, on peut dire que les prisonniers politiques qui sont arrivés, les Malais qui sont arrivés et qui ont su faire des commerces, ont aussi su faire de la concurrence aux Hollandais et à des Blancs. C'était le même cas pour les Indiens qui sont arrivés aux colonies de Natal et qui sont allés un peu en Afrique du Sud. Cette savoir-faire et cette façon de faire, le commerce par exemple, est devenir des concurrents au pouvoir blanc, a quand même incité à ce pouvoir blanc et d'essayer de les marginaliser. Et c'était facile, parce qu'à cette époque-là, il faut aussi comprendre que le discours politique et le pouvoir étaient retenus par les Blancs. Et c'est eux qui faisaient les lois et qui pouvaient décider sur ce qu'allaient devenir les autres en Afrique du Sud. Et c'est là qu'on va voir comment ils vont utiliser justement leur pouvoir, leur autorité et aussi leur idée d'être les civilisations. Et ils vont utiliser tout ça pour une seule chose, marginaliser ceux qui n'en étaient pas blancs. Okay. C'est sur cette tutelle aussi qu'on avait d'ailleurs eu cette politique d'apartheid qui a été introduite. C'était justement cette idée, comment marginaliser sa concurrence, si on veut. Mais ça, c'est une façon de le dire. Mais il faut aussi comprendre une chose, c'est que la religion en Afrique du Sud a aussi servi à construire le monde social pour ceux qui sont venus en Afrique du Sud. C'est peut-être la raison pour laquelle les premiers musulmans qui sont arrivés au XVIIe siècle et qui étaient au Cap et qui ont résisté, peut-être, on peut aussi parler de résister la dominance d'un pouvoir blanc, de rester musulman. C'était une résistance politique. Mais en même temps, c'était aussi nécessaire, comme pour les Indiens aussi, de faire construire leur monde social. C'était une façon de rester entre eux, de devenir eux. J'expliquerai ça plus tard, mais ce qu'ils ont fait, c'était de négocier leur séjour en Afrique du Sud. Ils ont perdu leur langue, ils ont perdu leur style vestimentaire. La seule chose qu'ils n'ont pas perdu, c'était leur religion. Alors, dans ce cas-là, c'était la seule chose qui était stable, surtout pour les Indiens, et c'est là-dessus qu'on a bâti justement le monde indien ou le monde sud-africain comme indien, et ensuite aussi qu'on va utiliser la religion qui va devenir le vecteur le plus important dans la construction de son identité indienne. Et là, je vais me concentrer sur les Indiens en Afrique du Sud. Il est difficile en Afrique du Sud de parler des islams. Eloi Fiki a déjà parlé de ce problème qu'on a avec l'islam en pluriel. On a un islam en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, quand on parle des musulmans, on a eu l'idée de parler des musulmans comme un bloc homogène. Mais en réalité, quand on commence à regarder des pratiques des musulmans de plus près, on va se rendre compte que il y a ce qu'on appelle des cultures musulmanes. Et ces cultures musulmanes sont très, très liées, très étroitement liées à ce que veut dire être sud-africain. Les premiers Indiens qui sont arrivés et qui ont pratiqué l'islam ont bien su, très vite compris, que pour rester indien, il y a une chose que l'État sud-africain et même les citoyens blancs en Afrique du Sud ne pouvaient pas atteindre, c'était leur religion. Et ils se sont acharnés, organisés, pour s'assurer que les premiers Maulana, les précepteurs religieux, vont venir de l'Inde et qui vont propager l'islam. Mais en même temps qu'ils étaient là, c'était l'idée de construire leur monde social. Et là, il fallait négocier comment rester en Afrique du Sud. Et pour cela, ils ont changé leur style vestimentaire. Les hommes portaient des dhotis, ils portaient autre chose, mais il fallait s'habiller en style occidental. Ce qu'ils ont fait, ils étaient obligés d'apprendre et de parler l'anglais ou l'afrikaans. Ce qu'ils ont fait aussi, ils ont arrêté de communiquer dans des langues indiennes. Ils préconisaient plutôt l'anglais et l'afrikaans. Ils étaient obligés de le faire parce que c'était une façon de démontrer justement au pouvoir blanc et aux citoyens qu'ils étaient sérieux pour rester en Afrique du Sud. Ce qui a fait qu'au bout de 50 ans, ou plutôt un siècle plus tard, on ne parlait plus ces langues indiennes, mais on restait quand même musulmans. Et pour rester musulmans, c'était peut-être facile. On avait les 5 piliers de l'islam. Si on suivait ces 5 piliers, on était musulmans. Mais en même temps, pour être indien, ce n'était pas suffisant de suivre ces 5 piliers. Il y avait aussi un monde socio-culturel à bâtir. Mais ce monde socio-culturel a déjà connu des échanges et des négociations. Et après un siècle, il y avait justement les liens de parenté. Il y avait, par exemple, les liens de parenté et d'autres rites et rituels qui ont été négociés en Afrique du Sud, qui ont été sud-africanisés. Mais ça démontrait en même temps comment les musulmans d'origine indienne en Afrique du Sud étaient en train de devenir sud-africains. Ils avaient des attachements à l'Inde, mais ils n'étaient plus indiens. Ils étaient en train de devenir sud-africains. Par exemple, lors d'un mariage, il y a des échanges de cadeaux. Là où les ancêtres, mes ancêtres d'il y a 50 ans, échangeaient des cadeaux pour démontrer qu'il y avait des liens de parenté. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui vont protester contre cet échange de cadeaux. Ils ne voient plus cette utilité. Mais par là, il faut comprendre une chose, que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de démontrer la façon dont ils sont loin de l'Inde. Mais comment expliquer ça? Et c'est là que la religion devient une façon d'expliquer ce changement. Alors pour ces jeunes musulmans, ça devient une façon d'expliquer leur identité religieuse, mais aussi leur identité sud-africaine. Et dans ce cas-là, ils vont dire que l'islam ne permet pas ce genre de rituel. Et c'est comme ça qu'on va utiliser la religion qui est en train de devenir une tactique justement pour expliquer ces changements socio-culturels que ces jeunes musulmans sont en train de vivre en Afrique du Sud. Merci beaucoup. C'est ça qu'on va voir en Afrique du Sud avec la religion. Pour moi, ce qui est intéressant de voir en Afrique du Sud, ce n'est pas quel est l'islam qu'on suit, mais comment plutôt qu'on utilise sa religion pour justement exprimer sa diversité et sa sud-africanité. Mais l'islam, on l'a utilisé beaucoup. Alors je vais vous parler d'une tactique qu'on a utilisé l'islam en Afrique du Sud et je veux maintenant retourner pendant la période d'apartheid pour démontrer comment on l'utilise comme tactique. Les Indiens en Afrique du Sud, bon, plutôt dire que les Sud-Africains d'origine indienne, n'étaient pas vraiment très actifs pendant la période contre l'apartheid, disons-le comme ça. Il y avait très souvent quelques individus qui étaient actifs, etc., mais la plupart de cette communauté voulait rien avoir. Leur expérience leur a démontré une chose, c'est qu'il faut tout faire pour continuer sa vie. Alors, en 1983, quand l'État d'apartheid a justement pour une dernière fois essayé d'ériger une politique pour continuer cette ségrégation, ils ont introduit une constitution qui a permis justement aux Indiens et aux Khalids, aux Métis d'Afrique du Sud, de participer au Parlement. C'est ce qu'on appelait le Tricameral Parliament. Parmi les Indiens, il y avait quand même les musulmans, il y avait quand même un débat là-dessus. Conservateurs, il y avait par exemple les instances comme le Ulema, etc., qui ne voulaient pas que les musulmans protestent contre l'introduction de ce Tricameral Parliament. Ils ne voulaient pas. Pour eux, c'était une question de... que ce n'était pas un problème pour les musulmans, qu'il ne fallait pas participer dans les organisations comme le United Democratic Front, là où il y a un mélange de genre, de sexe, etc., les hommes, les femmes, l'un à côté de l'autre, qu'il fallait d'abord plutôt s'organiser autour de la propagation de la religion, il faut rester pur, il ne faut pas se mêler dans la vie politique d'un pays, etc. Bien évidemment, il y avait parmi les musulmans des jeunes qui ont protesté contre la politique de l'Ulema. C'était le Call of Islam. Il y avait des jeunes qui ont dit non. C'est aussi le devoir d'un musulman de protester contre l'injustice qu'on trouve en Afrique du Sud. Donc on va trouver ce genre de politique. Et ce qui s'est passé, c'est-à-dire que d'un côté, on avait les conservateurs qui voulaient plutôt s'axer sur la propagation de la religion et les jeunes qui voulaient que l'islam ne soit pas quelque chose, ou la religion plutôt, ne soit pas quelque chose qu'on pratique en privé, mais que ça soit quelque chose de public. Alors on avait ça. Et tout ça pour démontrer que, j'ai oublié quelque chose, tout ça pour démontrer qu'au sein de la communauté musulmane, il n'y avait pas cette homogénéité, il n'y avait pas un consensus, qu'on était quand même partagé. Et ce partage était plutôt un cas d'âge. Les vieux qui étaient plutôt axés avec le Tricameral Parliament et les jeunes qui étaient contre. Qu'est-ce qui s'est passé en 1994? Pour la première fois en Afrique du Sud, en l'ère post-apartheid, 1994, où tout le monde a voté à pied égal, c'est aussi la première fois qu'il y a une constitution qui n'est pas chrétienne, où il n'y avait pas la religion inscrite dans la constitution. Les trois constitutions qu'a connues l'Afrique du Sud en 1910, en 1961 et en 1984, il y avait toujours la mention du christianisme. Ce qui a fait que le christianisme était toujours la première religion en Afrique du Sud. Tous les autres venaient après. Mais c'était aussi les constitutions, surtout de 61 et de 84, les constitutions de cette terre d'apartheid. Et quand on avait les constitutions de l'apartheid, on n'a pas reconnu l'individu. Alors en 1994, quand on passe à l'ère post-apartheid, c'est pour la première fois qu'on a une constitution qui n'est pas religieuse, qui est laïque et où est inscrit au milieu le droit de l'individu. Mais en même temps, c'est aussi une constitution qui reconnaît la différence culturelle, la différence religieuse, etc. Et on va introduire cette idée que dans l'Afrique du Sud post-apartheid, on a désormais le droit d'être soi. C'est aussi la première fois que chaque Sud-Africain pourrait vivre là où il veut. On peut dire que pour les Noirs, surtout, c'était une question de devenir, d'avoir la mobilité sociale. On pouvait aller partout, vivre partout. Mais avec cette mobilité sociale, il y avait quand même un problème aussi. Et pour les musulmans qui habitaient dans les quartiers, dans les townships indiens, qui avaient construit leurs mosquées, qui avait le droit ou qui avait pendant cette période d'apartheid et dans le township, qui pouvait justement avoir le droit de surveiller les autres musulmans. Avec la mobilité sociale aujourd'hui et le droit d'aller partout, d'habiter partout, il y a aussi des musulmans qui quittent les townships et qui vont aller habiter ailleurs. Ce qui fait que la communauté musulmane qui a connu, disons, une façon de rester entre eux, n'a plus cette sûreté aujourd'hui. Et ça aussi, ça va quand même introduire une espèce, on dirait, une frayeur ou une anxiété plutôt, chez les musulmans. Et de là, on voit, depuis les années 90, où il y avait justement ce droit de mobilité, on va voir que les musulmans, depuis les années 90, il y a une présence sur la place publique des musulmans. On peut aujourd'hui les reconnaître facilement. Le port de foulard, le port d'une barbe, ou tous ces signes ostentatoires pour démontrer qu'on est musulman sont multipliés de plus en plus. Okay. Ça, c'est une première. Moi, je l'explique en tant que peut-être une anxiété qu'on trouve. Ce qui me ramène chez M. Mossala et mon exemple des femmes voilées derrière le volant d'une voiture, c'est qu'on n'a pas vu ça. Mais en même temps, ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui, et je vais terminer avec une autre histoire, et c'est quelque chose qui est passé la semaine dernière. Ça n'a rien à voir avec les musulmans, parce que ça, c'est une histoire qui touche les hindous en Afrique du Sud. C'est peut-être passé peut-être l'année dernière, il y avait une jeune fille à l'école à Durban, qui avait porté un bijou de nez, un nose ring. Elle est allée dans une école qui était anciennement dans un quartier blanc et qui est maintenant mixte. Et dans ces écoles qui ont une tradition très british, on n'a vraiment pas le droit de porter les bijoux, etc. Il faut juste porter son uniforme et son chapeau, je pense. Alors cette jeune fille a porté un bijou de nez. Et on lui avait demandé de l'ôter à l'école. Elle avait refusé. Je pense que sa mère avait les moyens de traîner l'école en cour de justice. L'éducation, le département de l'éducation locale, provinciale, a bien évidemment soutenu l'école dans son devoir de demander à cette jeune fille d'ôter ce bijou de nez. Et le cours provincial a donné raison à l'école. La mère n'était pas contente que ça se passe comme ça. Elle a d'ailleurs amener ce procès au cours constitutionnel à Johannesburg, qui était le plus haut cours en Afrique du Sud. La semaine dernière, le cours constitutionnel, dans sa sagesse, a donné raison à cette jeune fille. Un bijou de nez est devenu non seulement un symbole, un signe de sa culture, mais est désormais devenu un signe de sa culture et de sa religion. Et on a maintenant le cours constitutionnel qui a donné l'autorisation à cette jeune fille de porter le signe, le bijou de nez, comme signe de sa culture et sa religion. Ça pose des gros problèmes pour nous. Dans la mesure où il faut dire que j'ai rien contre le port de bijou de nez. C'est pas moi qui va demander à cette fille de ôter le bijou de nez. C'est peut-être joli aussi. Mais j'ai un gros problème avec la décision du cours constitutionnel. Parce que de quel droit et comment le Cour constitutionnel est devenu à décider que le port de bijoux est quelque chose de religieux et culturel. Quand on sait justement, il y a plusieurs raisons pour ça. Mon arrière-grand-mère portait un bijou de nez, mais elle avait aussi des piercings dans son oreille. Et il y avait un bijou qui allait comme de nez à l'oreille. Ma grand-mère ne le portait pas. Ma mère pensait que c'était laide. Moi, je n'ai pas un trou dans mon nez. Et il y avait une émission à la radio, justement, où on avait discuté sur ce porte-bijou de nez. Et il était évident que même chez les Indiens, parce que le bijou de nez n'est pas seulement quelque chose que portaient les Hindous, mais c'était quelque chose que portaient les Indiens. Donc c'était une pratique qui était parmi les musulmans, aussi bien que les Indiens, aussi bien que les bouddhistes et des chrétiens. Une seule raison, ils venaient tous de l'Inde. Et ils venaient du nord de l'Inde, ils venaient de l'état de Gujarat ou de Tamil Nadu. Et ils portaient ce bijou de nez. Mais aujourd'hui, la décision de cour constitutionnelle qui a décidé que ce bijou de nez est quelque chose de hindou a bien évidemment dérobé le droit aux musulmans de demander la même chose, par exemple. Et d'autre part, si un jour M. Mossala a le malheur d'arrêter une autre femme musulmane sur la route et qui porte le niqab, et il va lui demander de lui montrer sa photo. Alors je pense que cette bonne femme peut-être ira aussi au cours constitutionnel en demandant son droit de porter le niqab et peut-être aussi de ne pas avoir sa photo sur le permis de conduire. Alors je pense qu'en Afrique du Sud, quand on voit l'islam et la pratique des musulmans, il faut aussi comprendre une chose. Qu'il y a la religion, il n'y a pas de problème à ça. Ce sont les 5 piliers d'islam qu'on est en train de pratiquer. Mais tous ces problèmes sous-jacents sur ce que veut dire être sud-africain en Afrique du Sud, aujourd'hui, passent par ce biais de ces pratiques musulmanes qu'on va désormais qualifier d'être musulmane ou de ne pas être musulmane. À partir du moment où on va déclarer que les pratiques rituelles ne sont pas musulmanes, il faut comprendre que c'est la seule façon qu'ont justement les musulmans de se distancier de l'Inde, d'un côté, et de dire que puisque leurs pratiques ne sont pas musulmanes, d'abord, ils sont plus indiens, et d'autre part, ça devient une façon de se rapprocher de l'Oumma qui est mythique. Et une autre chose qui se passe, c'est que puisqu'ils ont perdu et ils n'utilisent plus les langues indiennes, ça devient aussi une façon d'arabiser leur, et là je veux dire pas l'islam, mais arabiser leur identité musulmane. Et je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup.
Alors, passons. Merci beaucoup. Passons aux questions. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Il y en a une ici, tout de suite. Signalez-vous un petit peu d'avance, de manière à ce qu'on sache à peu près.
Oui. Je vous remercie beaucoup pour cet exposé. Je m'adresse à vous, madame. Je souhaiterais tout simplement savoir si en Afrique du Sud, les confréries donc mystiques musulmanes se sont implantées. Et si oui, si les confréries mystiques musulmanes se sont implantées en Afrique du Sud. Voilà, donc c'est ça. Merci.
Oui, je n'ai pas eu le temps d'évoquer ça, mais bien évidemment, je peux en parler de ces confréries. D'ailleurs, je pense qu'il y a un retour, si on parle de ces confréries musulmanes. Si vous faites allusion au soufisme, oui, il y a maintenant un soufisme qui est en train de réapparaître en Afrique du Sud. Pour l'instant, je peux dire que vous pouvez demander à Eric Germain, je sais que peut-être il pouvait vous plus parler des confréries au Cap, mais parmi les Indiens, ce qui est intéressant, c'est comment le soufisme, justement, il y a un mourid qui vient justement de l'Irak, qui s'appelle Fadlullah Hayri, qui s'est implanté en Afrique du Sud. et qui pour l'instant a beaucoup de ampleur et succès vers les marchands des élites musulmanes. C'est là qu'on le voit.
Bonsoir. J'aurais une question pour Monsieur Fiquet. Je voulais savoir un petit point d'histoire sur l'Éthiopie. Est-ce que l'Éthiopie a été un barrage à la propagation de l'islam et le rôle de l'intervention des Portugais au XVe siècle contre la défaite d'Ahmed Gragne, si ça a une répercussion encore aujourd'hui? Merci.
Oui, alors il s'agit d'un épisode de l'histoire éthiopienne qui peut se comprendre dans la longue durée. Est-ce que l'Éthiopie a été un barrage? Je ne sais pas si ça s'est posé dans ces termes-là. L'Éthiopie était un royaume chrétien, un royaume chrétien d'ancienne date, depuis le IVe siècle. L'Éthiopie a vu, et cet épisode des traditions musulmanes relatif à la venue des premiers musulmans persécutés, réfugiés en Éthiopie, l'Éthiopie a vu apparaître l'islam. De par cette protection qui a été accordée par le roi chrétien éthiopien aux premiers musulmans, le prophète aurait dit aux conquérants arabes de ne pas toucher à l'Éthiopie. Il y a comme ça une tradition historique qui expliquerait le fait que l'Éthiopie n'ait pas été conquise militairement dans les premiers siècles de l'islam. Il apparaît surtout que l'islam était orienté vers la conquête des empires byzantins et perses vers le nord, et les armées étaient pleinement concentrées sur ces conquêtes, n'avaient pas à ouvrir un front méridional. Alors ensuite, l'islam s'est implanté dans cette région à travers notamment des réseaux d'implantation commerciale, avec une sorte de partage de l'espace écologique et économique entre les chrétiens établis sur les hautes terres et cultivant ces hautes terres et produisant donc à la fois du bétail et des céréales, et les musulmans drainant ces produits vers la mer Rouge. Et pour diverses raisons de compétition, de lutte pour l'espace et les ressources, à partir du XIIe siècle, le royaume chrétien et différentes formes de pouvoir musulmans se sont affrontés, et cela a dégénéré au fil des siècles pour provoquer une sorte de grand conflit entre des royautés musulmanes repoussées de leurs territoires anciens vers l'Est, souhaitant reconquérir ces territoires et en même temps mettre fin au royaume chrétien. Et ce conflit très régional, une histoire très régionalisée de conflits et de concurrence locale, a pris une dimension mondiale parce qu'au même moment, les Portugais et les Ottomans étaient en compétition impériale dans la mer Rouge. Et donc, les Éthiopiens, les chrétiens d'Éthiopie, sur le point de perdre face à une conquête militaire musulmane très rapide et efficace, ont fait appel à la couronne portugaise qui, depuis quelques années, cherchait le prêtre Jean, un prêtre mythique qui était censé pouvoir faire une alliance entre les chrétiens d'Occident et les chrétiens d'Orient et faire un étau pour écraser l'islam, selon un vieux rêve de croisade. Et finalement, cette figure du prêtre Jean s'est concentrée en Éthiopie, les ambassades y étaient envoyées. Donc les Portugais ont donné appui aux chrétiens, et au même moment, les Ottomans ont fourni quelques appuis, notamment en armes, à l'État musulman régional. Et en même temps, c'était une implication assez faible. Les Portugais ont envoyé un contingent de 400 hommes et les Ottomans quelques canons et armes. Donc, Était-ce véritablement la manifestation d'une sorte de clash des civilisations telles qu'on en fait la promotion actuellement? Était-ce une forme de prélude à la mondialisation, à la compétition mondialisée des religions? J'en doute, c'était une forme très conjoncturelle de conflit qui... ne traduit pas toute l'ampleur des coexistences, des relations entre musulmans et chrétiens dans cette région en particulier et dans l'Afrique. Souvent, pour penser les relations entre chrétiens et musulmans en Afrique, régulièrement fait la chronique d'explosions, de conflits au Nigeria, de manifestations hostiles en Ouganda, etc. Or, il y a très largement un espace de sociabilité partagée, une division de l'espace public, et Réa Navalli l'a noté, une division assez toujours reconfigurée, toujours changeante en fonction des vêtements, des habits portés par les uns et les autres, en fonction de l'empreinte architecturale que les uns et les autres donneront à l'espace public. Il y a aussi une forme de concurrence des décibels entre la façon dont les prêcheurs chrétiens et les appels à la prière peuvent être amplifiés par des haut-parleurs. Mais il n'y a pas non plus une vision africaine d'un conflit inexorable entre les deux fois.
Désolé, je...
Donc une question pour madame. Donc vous avez parlé des musulmans venant de l'Inde, mais est-ce qu'actuellement en Afrique du Sud, il y a des musulmans, des personnes d'origine enfin, africaine noire?
Je vais aussi prendre l'occasion de vous parler de ce que je vais appeler le quatrième vague des musulmans. C'est justement ce que vous avez évoqué. C'est que ce quatrième vague, bien évidemment, depuis les années 90, quand l'Afrique du Sud a commencé à ouvrir, c'est-à-dire avec la libération de Nelson Mandela, il y a des musulmans, bien évidemment, d'Afrique, dont on a maintenant les Somaliens, les Éthiopiens, les Malaviens qui sont en Afrique du Sud, mais aussi bien des Pakistanais, des Indiens et aussi les Marocains, les Tunisiens. Donc la présence des musulmans se multiplie en Afrique du Sud. Mais il faut aussi, ce que je n'ai pas évoqué, c'est que l'islam reste, les musulmans restent quand même une minorité en Afrique du Sud. Je pense que d'après les recensements de 2000 ans, il n'y a que 1,46% de la population de 48 millions qui sont musulmans. Donc, il y a moins de 1 million de musulmans en Afrique du Sud. Donc, sur ces 660 000 de musulmans, il faut ajouter justement ceux qui sont venus d'Afrique et d'autres d'Asie du Sud-Est, par exemple, qui sont venus en Afrique du Sud. Et encore une fois, ce qu'on voit en Afrique du Sud, c'est que la présence des autres musulmans est en train de, encore une fois, changer le paysage des pratiques. Pour reprendre l'idée des musulmans indiens, par exemple, depuis peu, ils sont en train de célébrer le Mauloud, l'anniversaire du prophète, ce qu'on avait arrêté de célébrer parce qu'on les considérait comme une pratique indienne, et désormais de retour en Afrique du Sud, et encore une fois, ces musulmans qui sont ancrés, installés en Afrique du Sud, sont devraient faire face à des pratiques qui sont en train de revenir, qu'eux ils ont sorti de leur répertoire. Donc il y a tous ces changements qui sont en train de se faire, et ce qu'on peut dire finalement de ces pratiques, et avec l'arrivée des musulmans africains, d'ailleurs il y a un travail à faire, un travail terrain à faire, c'est que les musulmans ont tendance d'aller à la mosquée. Chaque musulman peut aller prier dans la mosquée. Ce n'est pas un problème. Le problème, la question, c'est qu'on peut prier ensemble, mais est-ce qu'on peut vivre ensemble? Parce que quand on commence à rentrer, surtout dans les anciens quartiers dits Indian Townships en Afrique du Sud, on va retrouver la présence forte des musulmans africains. On va trouver qu'il y a quand même une grande tension entre les musulmans indiens et les musulmans africains. La seule chose... ou les musulmans indiens qui sont nouvellement arrivés, ou pakistanais. La seule chose qui leur lie et qui fait des liens entre eux, c'est d'être musulmans. Mais quand il s'agit de leurs pratiques socio-culturelles, on va trouver qu'il y a beaucoup plus un écart. Et voilà, on va retourner en 1860, ou plutôt en 1890, on va trouver qu'on est en train de refaire cette idée de s'implanter en Afrique du Sud. Et voilà que ça rebelote, ça recommence. Il faut que maintenant, cette marginalisation dont je parle, c'est pas... qui a commencé entre le pouvoir de l'État blanc et les autres, mais qui a aussi existé entre ces diverses communautés musulmanes, et avec la présence des nouveaux musulmans qui sont arrivés, cette marginalisation continue. Le seul moment où il peut se lier, c'est au moment de prière et au moment, par exemple, de devenir musulman et protester contre la politique, ou plutôt à côté des Palestiniens. Donc on va, à ce moment-là, prendre l'idée d'être musulman et le transformer en tactique politique et démontrer leur soutien avec l'État palestinien. Mais ce qui fait dans ce cas-là, c'est que on va trouver deux types de musulmans en Afrique du Sud. Ceux qui voudraient aussi donner leur soutien aux Palestiniens, mais qui ne peuvent pas le faire. Parce que pour eux, ce n'est pas une question d'être musulman, mais plutôt une question des droits de l'homme. Alors ces gens-là sont bien évidemment écartés de ce genre de manifestation. Et on va voir en Afrique du Sud que sur le plan public, sur la place publique, manifestation, quand il s'agit d'un pays musulman, on va trouver qu'on va le faire en tant que musulman, mais pas en tant qu'être humain ou sud-africain. Mais bien évidemment, ce sont ces deux moments, prier et manifester, qu'on va trouver que tous les musulmans peuvent se retrouver ensemble. Mais entre vivre ensemble, c'est une autre question.
Une dernière question.
Oui, merci madame pour votre exposé. Ce que vous avez dit, à propos donc de l'islam, qui, excusez-moi d'être un peu provocateur peut-être dans ma formulation, mais apparaît un petit peu second par le fait d'être d'origine indienne, bon, me fait penser à la situation d'un pays comme les îles Fidji, où la communauté indienne, bon, qui occupe, les strates professionnelles inférieures de la société, se trouve en concurrence avec donc la société indigène, si j'ose dire, si vous voulez, musulmane, me fait penser de dire est-ce qu'il n'y a pas un risque d'affadissement de l'islam, et que, in fine, contrairement peut-être à ce que vous venez de dire à certains égards, l'islam n'est qu'un moyen, mais en fait ne remplit pas la vie intime des gens dont c'est apparemment la religion nominale.
C'est une très grande question, j'ai pas tout compris.
C'est sûr, parce que finalement la religion ne renvoie pas tellement à l'indianité que ça affaiblit la religion.
comme j'avais dit, je pense que ce n'est pas au début, mais quelque part, que ce qui m'a intéressé, c'est la façon dont on utilise l'islam en tant que religion pour justement construire son identité sociale. Encore une fois, il faut dire que cette question sur être musulman et être indien, ça reste quand même quelque chose de partagé, même au sein de cette communauté indienne. Et là, encore une fois, je peux utiliser l'exemple de l'islam. Et en vous disant que c'est la meilleure façon de le faire, c'est de raconter notre histoire. Un match de cricket. Il y a le Pakistan et l'Inde qui jouent. Et ça se passe à la télé. Et c'est arrivé dans ma famille. Et j'avais des neveux et des nièces qui regardaient ce match à la télé avec leur grand-mère, ma mère. Et l'islam de ma mère, c'est ce qu'on appelle l'islam des Barelwi, ça veut dire que les islams de mes ancêtres, le Bab Dadaka Islam, c'est un islam qui était venu de l'Inde. C'est un islam où on pratique les rites et les rituels, où on a toutes les superstitions, etc. Et ma mère le fait. Et en même temps, mes neveux qui ont grandi en Afrique du Sud sont allés à l'école et qui sont justement ces gens-là qui disent que l'islam devrait être pur, on ne devrait pas avoir des rites, donc on ne devrait pas avoir des superstitions. Moi, je leur dis toujours que vous avez d'autres superstitions et vous vous rejoindrez. Mais ça n'a pas d'incidence. Alors, on regarde la télé. Moi, celui qui gagne, bon, d'accord, je vous soutiens. Mais dans ma famille, on est très sérieux. Les neveux vont soutenir le Pakistan. Parce que le Pakistan, c'est un pays musulman. Et en tant que musulman, on va soutenir les musulmans. Ma mère va dire, je suis indienne, je suis l'islam de mes ancêtres, et je vais donc soutenir l'Inde. Parce que j'ai le contact avec l'Inde. Parce qu'elle écrit toujours à sa famille en Inde. Pendant que moi et mes neveux, on ne sait pas écrire le Gujarati, on ne connaît pas l'Inde, on ne veut plus rien avoir avec l'Inde parce qu'on est sud-africain. Mais en même temps, ces neveux-là sont aussi une expression de tous ces Indiens musulmans. C'est une minorité. C'est en Afrique du Sud. Ils veulent rester musulmans. Ils ne veulent pas perdre leur différence. Perdre leur différence veut dire peut-être devenir indien. Mais devenir indien veut dire aussi partager leur monde avec les hindous. Et ils ont appris à être musulmans. Aujourd'hui, la seule chose qui leur reste, c'est de rester musulmans et d'appartenir à cette umma mythique. Et de là, ils vont soutenir l'équipe de Pakistan. Et un jour, je leur ai dit, mais vous savez que le Pakistan est une réalité depuis 1947. Et ils étaient là à se gratter la tête un peu. Ils ne savaient pas ça. Mais en tout cas, ça n'a pas d'incidence. Ces musulmans, alors on soutient les musulmans. Point final. Alors, pour se dire que la religion, surtout l'islam, je peux en parler des hindous en Afrique du Sud aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, à un moment donné, non seulement regarder les pratiques de ces communautés religieuses, de ces communautés minoritaires, en tant que des farouches religieuses, mais aussi comprendre de quelle façon, parfois, la seule chose qui leur reste, et ça c'est le cas en Afrique du Sud, je pense, chez les hindous et les musulmans, la seule chose qui leur reste pour justement démontrer leur différence, mais aussi leur sud-africanité, c'est par le biais de leur religion. Et dans ce sens-là, ça devient une tactique.